Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie, Philippe Bertin.
Je suis avec Sandrine et Christelle. Vous êtes les deux filles de Patrick Leboucher. Le dimanche 12 septembre 2021, votre père est parti faire son jogging. Il a disparu mystérieusement. On est sans nouvelles depuis de lui. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, un an après, Sandrine ?
Nous restons dans l'attente. On ne peut pas faire un deuil quand on n'a pas la personne avec nous. Donc notre famille est en permanence en train de faire des recherches. Des recherches de terrain, maintenant, c'est plus compliqué, mais on continue de communiquer, d'essayer d'être dans l'action concernant cet avis de recherche. Et on est vraiment dans une position d'attente.
Christelle, vous m'avez dit, faire son deuil, c'est impossible, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que, en fait, tout vous ramène à votre père qui a disparu dans des conditions, on va y revenir, tout à fait étranges, mais tous les moments que vous vivez depuis un an, ça vous ramène à la présence de votre papa ?
Bah oui, tout ce qu'on peut faire, il était chauffeur de bus, un bus qui passe dans Lisieux, une moto, on se dit je ferai plus jamais de moto avec lui, et tous les événements qu'on peut avoir, et où il doit être là, c'est une communion, c'est le repas de Noël, c'est le repas de Pâques, comme tout le monde qui peut faire un deuil, mais nous cette phase aiguë du deuil, elle est là en permanence tout le temps avec nous depuis un an.
Elle se traduit comment ? C'est des chagrins, c'est des coups de morale qui vont pas bien, c'est quoi ?
Ça dépend des jours et on va dire que c'est plus facile pour nous quand on fait des choses qui concernent les recherches et c'est plus facile d'être dans l'action que dans l'attente.
Est-ce que le fait d'avoir une famille, vous-même, vous avez deux enfants chacune, hein, et votre frère Jean-François, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a deux enfants, est-ce que l'idée de la famille, la fratrie, est-ce que ça aide dans ces moments si difficiles ?
Oui, c'est même indispensable, puisque gérer tout ça tout seul, ça, ce serait, j'irais presque insurmontable. Là, à trois, on peut se répartir les choses, s'entraider, en parler ensemble.
On revient un an auparavant, on s'était rencontrés quelques heures après que la disparition de votre papa ait été signalée. Est-ce que vous pouvez me redire dans quel état d'esprit, à ce moment-là, il y a un an, même si c'est douloureux d'y repenser, vous étiez ?
On était dans l'espoir, chose qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus avoir. Avoir un espoir de le retrouver vivant aujourd'hui, ce serait utopique un an après. Quand on s'était rencontrés, c'était au bout de 3 jours. Et là, forcément, on était plein d'espoir. On pensait le trouver blessé au bord d'un chemin ou inconscient qu'il ait eu un malaise, quelque chose qui se soit écarté d'un chemin et qu'on le retrouve. Cet espoir-là, aujourd'hui, il n'est plus là.
Il y avait une grosse mobilisation, vous étiez toutes les deux entourées de vos familles, de vos proches, de vos amis. Cette solidarité, cette solidarité et cette mobilisation, ça a beaucoup compté les premiers jours, mais aujourd'hui, qu'en est-il ?
Ça compte toujours. On a toujours des gens qui nous disent que si on a besoin de quoi que ce soit, ils sont présents et plein de gens aussi donc qui nous témoignent leur soutien, mais aussi qui nous disent que quand ils vont marcher ou quand ils vont courir, ils ont toujours un œil pour regarder. Et la vie a changé pour plein de monde, en fait, parce qu'on ne voit plus les choses autrement, on ne peut plus se promener pareil et on a un œil attentif à tout ça.
Votre vie à vous deux et à votre frère, à votre maman, à Claudia, la compagne de votre papa, la vie a basculé ce jour-là ?
Bah oui. Ouais, on a tous perdu énormément et non, je sais pas comment dire, on est tous tournés vers ça. De toute façon, on peut pas passer des moments ensemble sans en parler et sans retourner les choses dans tout leur sens, de refaire des probabilités et même à ressortir nos cartes et à ressortir des horaires et de on m'a dit ça et ça pourrait peut-être être autrement et on se repose toujours plein de questions et on repense aussi beaucoup à ce qu'on a fait cette première semaine. parce qu'elle a tellement été intense, on a passé des jours à sillonner la campagne, des jours et des nuits sans dormir, à chercher. Et on reparle beaucoup aussi de ces moments-là qui ont été très très intenses.
Ils ont été intenses dans la recherche, mais ils ont été aussi intenses parce que vous vous êtes découvert vous-même votre capacité à chercher à ce point.
Bah, on a découvert des capacités incroyables. Si on m'avait dit que je passerais 3 jours sans dormir à marcher et à chercher partout et à garder des capacités intellectuelles aussi, parce que la gendarmerie nous a confié la coordination des recherches sur le terrain, parce qu'on était bien organisés, parce qu'on avait nos cartes, des personnes qui dispersaient tous les volontaires pour aller chercher sur les différents terrains. Et ouais, on se dit qu'on avait quand même des capacités qu'on ne soupçonnait pas.
Podcast by Tendance Ouest.
Je reviens sur les faits. On est le dimanche 12 septembre 2021. Il est 13h30. Votre père part faire son footing. Il a l'habitude, hein, il faut le rappeler, de pratiquer l'athlétisme à un haut niveau, puisqu'il est, il fait des marathons, mais aussi des trails. Il a fait des trails de plusieurs dizaines de kilomètres, voire plus une centaine de kilomètres, voire même plus. À ce moment-là, quand il part faire son jogging, il est tout seul, il n'a pas de téléphone. Et il part faire son footing autour de la maison qu'il habite avec Claudia à la sortie de Lisieux. À vos yeux, aujourd'hui, avec le recul, quelles sont les hypothèses qui peuvent être établies, qui pourraient expliquer sa disparition ? Sandrine ?
Il y a deux hypothèses qui ressortent vraiment. La première, ce serait un incident physique qui fait qu'il perd conscience et qu'il continue de courir. Et que le cerveau ne raisonne plus et qu'il part dans des endroits improbables pour un coureur et peut-être loin d'ici et qu'il n'a pas été vu, ou peut-être dans un endroit très très escarpé qu'on n'aurait pas pu fouiller.
Et puis là, vous pensez à une grotte ou à une caverne ou quelque chose, ou à un étang, un point d'eau?
Oui, ou des fourrés aussi, parce que les ronces sont très très denses, et en imaginant que la nuit il est froid, il est rampé dessous et puis qu'on pouvait pas le voir, quoi. Et la deuxième hypothèse, ce serait qu'il ait fait une mauvaise rencontre. Ça a beau être des chemins de campagne dans notre petite ville, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre.
Qu'est-ce que vous appelez une mauvaise rencontre ?
On ne sait pas, une voiture qu'il renverse et qui décide de l'emmener. Toutes les suppositions, il tombe sur un deal de drogue, il est témoin de quelque chose qu'il ne fallait pas. Et puis les personnes décident de l'emmener.
Vous n'imaginez pas un seul instant l'hypothèse d'un départ volontaire ?
Ah, pas du tout. Rien dans sa vie n'indique qu'il avait un mal-être et qu'il pouvait avoir envie de partir. C'est quelqu'un qui est à la retraite, qui n'a pas de difficultés financières, qui mène sa vie comme il l'entend, qui a les loisirs qu'il veut, qui gère son quotidien comme il le souhaite, sans entrave. Et puis la gendarmerie a aussi enquêté de ce côté-là, et étant très déconnecté, il n'a pas du tout ni de téléphone, il ne sait pas aller sur Internet. Une fuite comme ça se prépare et s'organise, et matériellement, il n'y a aucune preuve de ça.
Christelle, vous m'avez dit quelques temps auparavant, avant cette disparition, votre papa vous avait fait une petite confidence. Est-ce que vous pouvez nous dire ?
Ouais. À discuter un petit peu de sa vie, il m'avait dit « je suis heureux ». Il radotait un peu quand il parlait, il fait « ah, je suis heureux, ah, je suis heureux, heureux, heureux ».
Ça veut dire « je suis heureux de ma famille, je suis heureux de ma situation », c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Il était content pour nous parce que tous les trois, on a une bonne situation, on a chacun nos enfants, que tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé, il était heureux en amour, avec ses projets de course à pied, tout ça, tout allait bien.
Est-ce que vous pouvez me parler de votre papa ? Qui était-il, Sandrine ?
Eh ben, c'était un homme qui était toujours dans le positif. Il ne voyait pas les choses vers le négatif. Il essayait toujours de prendre le positif des gens qui l'entouraient, d'avoir des projets qui le dynamisaient, que ce soit dans la course à pied, mais aussi dans les projets de rencontres avec des amis ou des événements de famille, ses travaux de maison. Il voyait toujours le côté positif et il entraînait toujours tout le monde vers la bonne humeur, quoi.
C'était un papa aimant, j'imagine, Christelle.
Ouais, mais en même temps, pas très bavard quand même. Donc, les gestes qui parlent plus que les paroles. Et après, ouais, c'est dans des choses du quotidien. Nous donner des légumes de son jardin, un poulet qu'il a tué pour nous, voilà.
Comment vous faites toutes les deux avec votre frère, avec vos enfants, avec votre maman, avec Claudia, la compagne de votre papa, pour supporter tout ça ?
On essaie de faire notre tâche du quotidien du mieux qu'on peut. On en parle avec nos amis, entre nous.
Ça vous fait du bien d'en parler ?
Ah oui, forcément, parce que on ressasse beaucoup de choses liées à cette disparition-là. On a besoin, en fait, d'en parler et que ce soit pas un tabou, ni avec les amis, ni entre nous, même avec les collègues. Au quotidien, on a besoin, voilà, de ces présences-là positives.
Christelle ?
Ouais, pareil. Et même si c'est pas facile, avec nos enfants aussi, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est difficilement compréhensible pour nous. Alors pour les enfants, c'est encore pire. Et on essaie d'être dans la transparence avec eux.
Vous en parlez avec eux ?
Ouais, on en parle. On leur dit tout ce qu'on fait.
Podcast by Tendance Ouest.
Vous m'avez dit que aujourd'hui l'issue de cette triste affaire, de la disparition de votre papa, ne pouvait être que fatale. Ça veut dire que s'il doit y avoir une issue, ce sera celle de découvrir peut-être ce qui s'est passé et son décès. C'est ça ?
Bah ouais, parce que maintenant, au bout d'un an, on n'a plus l'espoir de le retrouver vivant.
Vous ne gardez pas d'espoir ?
C'est difficile. C'est difficile.
Alors Christelle, vous m'avez fait une confidence. Pendant les vacances, cet été, même lorsque vous étiez loin de Lisieux, vous étiez je crois en Charente, il vous est arrivé de regarder dans les fossés, sur la route, s'il n'y avait pas d'indice éventuel que vous pourriez découvrir, éventuellement qui ramène à la disparition de votre papa, c'est vrai ?
En fait, c'est devenu tellement automatique de chercher. Que partout où on est, on regarde sur les bas-côtés, on regarde des choses qui pourraient être un indice, et c'est devenu un réflexe en fait, c'est devenu notre mode de fonctionnement.
L'enquête de gendarmerie n'est pas close, et ça continue. Le 30 avril dernier, il y avait eu une battue organisée par les gendarmes. Cette battue n'a rien donné ?
Non, elle n'a rien donné.
Et les gendarmes continuent de chercher ?
Oui, ils continuent de chercher. Malheureusement, il y a tellement peu d'éléments. Ils ont peu de ficelles à tirer pour en faire une enquête qui va se construire et se poursuivre dans la durée.
Un an après, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous écoutent ? Vous avez la gentillesse de vous confier, de raconter qui est votre père, de raconter aussi la souffrance que vous vivez, que vous traversez depuis un an. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Nous, on a envie de dire qu'on voudrait être délivré de tout ça. On voudrait pouvoir reprendre une vie normale sans avoir toute cette affaire qui nous accompagne tout le temps et qui est là dans nos sentiments et dans nos vies. Et que si quelqu'un sait quelque chose, un indice, même un tout petit détail qui s'est passé ce jour-là, il peut nous le communiquer ou le communiquer à la gendarmerie et puis à tous les gens qui sont à arpenter la campagne pour marcher, courir, la chasse, la pêche, qui continuent à faire comme nous, à regarder dans les bas-côtés et à voir s'ils verraient un vêtement noir ou une chaussure bleue.
Christelle ?
Pareil, vraiment, on voudrait être délivré de cette situation-là et... Voilà, si des gens se rappellent de quelque chose ce jour-là qui a pu les interpeller, ou si vraiment quelqu'un sait quelque chose qui nous le dise, quoi.
Le 12 septembre, il y a un an, il y a deux témoignages qui disent tous les deux, confirment avoir vu votre père à 4 km, je crois, de son habitation. Ce sont à ce jour les seuls témoignages qui ont été confirmés d'une présence de votre papa aux alentours de votre maison, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Il est parti courir pendant 3 heures. Mais il y a que deux personnes qui le voient juste sur sa fin de parcours, presque 4 km de la maison. Et ensuite, plus rien, plus aucune trace. Il s'est volatilisé.
Est-ce que vous attendez cette délivrance ? Est-ce qu'on imagine, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ce jour qui arrivera où vous aurez enfin la délivrance ? Est-ce qu'on peut l'imaginer ? Et si oui, qu'est-ce que vous ferez ?
Moi, je n'ose pas l'imaginer, parce que je ne veux pas me laisser trop d'espoir. En plus, on ne sait pas dans quelles conditions ça arrivera. Donc, pour moi, ce jour-là, j'imaginerais jamais qu'un an après, on y serait toujours, en fait. Donc, je n'arrive pas à m'imaginer le moment où on nous apprendra qu'on l'a retrouvé.
Et vous, Christelle ?
Non, j'imagine pas ça, mais je surveille beaucoup mon téléphone. Je suis impatiente que mon téléphone sonne et... Et en fait, il y a plein de moments où je regarde mon téléphone parce que j'attends qu'il sonne, quoi.
Merci à vous deux. Merci beaucoup.
Podcast by Tendance Ouest.